Eh bien, soyez tous les bienvenus, particulièrement ceux qui nous visitent pour la première fois. Sentez-vous vraiment à l'aise au milieu de nous. Nous sommes ici dans la famille de Dieu. Et nous sommes heureux de savoir que, comme l'a dit Claude dans sa prière tout à l'heure, eh bien, là où deux ou trois sont assemblés, Dieu est présent au milieu de nous. Et il n'attend pas que nous soyons nombreux pour être présents. Nous avons quelques familles qui sont absentes ce matin, alors pour différentes raisons. Certains sont partis en vacances, hein, la famille Béné, la famille Debru, Serge et Corinne aussi sont en vacances. Mais il y a des familles comme la famille de mon fils Emmanuel et la famille Schwartzmann qui sont cas contact, donc qui sont isolés et qui n'ont pas pu se trouver au milieu de nous. Mais nous sommes en communion avec eux quand même, là où ils sont. Alors, j'aimerais vous souhaiter à chacun un bon moment avec le Seigneur, et puis aussi une bonne année, puisque c'est la coutume de le faire. Alors, pour souhaiter une bonne année, eh bien, quoi de mieux que de vous souhaiter d'avoir Dieu pour seul appui. Je pense que vous savez que c'est la devise du pays de Montbéliard. Avoir Dieu pour seul appui, c'est formidable. Et vous voyez cette médaille qui a été frappée pour le pays de Montbéliard montre cette belle devise, bien que on ne la voit pas très bien, mais Dieu seul est mon appui, c'est bien la devise du pays de Montbéliard. C'est d'ailleurs au fronton de plusieurs mairies, en particulier celle de Montbéliard, et de plusieurs temples du pays de Montbéliard. C'est formidable quand même d'avoir une telle devise. Malheureusement, je pense qu'il y a peu de personnes dans le pays de Montbéliard qui connaissent cette devise, et surtout peu de personnes qui la font leur. Mais nous-mêmes chrétiens, est-ce que Dieu est notre seul appui? Est-ce que ce n'est pas quand nous n'avons pas d'autre solution que nous faisons appel à lui, un petit peu comme une roue de secours? Avoir Dieu pour seul appui, pour seule référence, c'est bien autre chose que de l'avoir comme roue de secours. David l'exprime très bien. Je ne sais pas si les personnalités, les maires du pays de Montbéliard l'ont comme seul appui, mais en tout cas, dans la Bible, on peut citer David qui, lui, avait Dieu comme seul appui. Et dans le psaume 18, verset 2, il l'exprime très bien en disant « Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. » En voilà des qualificatifs qui expriment bien autre chose qu'une roue de secours. Mais il va encore plus loin dans le psaume 36, verset 10. Il dit « C'est auprès de toi qu'est la source de la vie. C'est ta lumière qui éclaire notre vie. » Il ne s'agit plus seulement d'une protection, mais carrément d'une raison de vivre. La source de la vie. Ces affirmations de David sont fortes, mais concrètement, comment vivre avec Dieu comme seul appui et comme seule source, comme seule lumière? Comment faire concorder la pratique avec la théorie? Dans la Bible, nous avons des exemples d'hommes et de femmes qui se sont appliqués cette règle avec plus ou moins de rigueur. Et je vais prendre comme exemple le roi Ézéchias. Ézéchias est le fils d'un roi infidèle. Achaz, son père, a profané le temple en construisant un autel au dieu des Syriens à la place de l'autel qui était pour l'Éternel. et il a même écarté les sacrificateurs de leur service. Il a multiplié les idoles pour détourner le peuple du vrai Dieu. Mais Ézéchias n'a pas suivi l'exemple de son père. Il ne s'est pas appuyé sur l'éducation qu'il avait reçue. Au contraire, la Bible nous dit qu'il a été fidèle plus qu'aucun roi avant lui. Il s'est appuyé sur les textes de Moïse pour réhabiliter les sacrificateurs dans leur service et pour détruire les idoles. Il a convoqué même le peuple d'Israël tout entier, au-delà des frontières de Juda, pour rétablir les fêtes en l'honneur de l'Éternel et le service au temple. Il a même détruit le serpent d'airain qui était devenu un objet d'adoration. Il n'a pris pour appui ni les habitudes de ses prédécesseurs, y compris de son père, ni celles des peuples voisins, ni ce qui se pratiquait couramment dans le pays d'Israël à cette époque-là. Et il a détruit tout ce qui n'était pas conforme à la loi que Dieu avait donnée à Moïse. Et il a ainsi suscité un retour sans précédent du peuple d'Israël à son Dieu, à l'Éternel. Alors, les versets qui sont affichés de 2 Chroniques 31, versets 20 et 21, résument très bien tout cela. Il est dit, il est écrit, « C'est ainsi qu'Ézéchias agit dans tout le pays de Juda. Il fit ce qui est bien, juste et fidèle devant l'Éternel son Dieu. Pour tout ce qu'il entreprit, qu'il s'agisse du service du temple de Dieu ou de l'obéissance à la loi et aux commandements, il chercha à plaire à son Dieu de tout son cœur et tout lui réussit. » Tout semble donc parfait. Le pays d'Israël a retrouvé sa prospérité et le texte nous dit que tout réussit à Ézéchias. Alors, 14 années de paix et d'abondance s'écoulent entre le dernier verset du chapitre 31 que nous venons de lire et les premiers versets du chapitre 32 où on lit la suite. 2 Chroniques 32, verset 1. Après ces événements qui démontrèrent la fidélité d'Ézéchias envers Dieu, Sennachérib, roi d'Assyrie, vint envahir le territoire de Juda. Il assiégea les villes fortifiées et ordonna d'en forcer les remparts. On a vu le comportement d'Ézéchias quand tout lui réussissait, sa fidélité à Dieu et à la loi qui avait été transmise par Moïse. Tout cela, c'est quand il y avait la paix. Mais voici maintenant qu'il est confronté à l'adversité, à l'épreuve. Comment va-t-il réagir? Eh bien, nous lisons dans 2 Chroniques, chapitre 32, versets 20 et 21, « Le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, se mirent à prier à ce sujet et ils crièrent vers le ciel pour implorer du secours. Alors, l'Éternel envoya un ange qui extermina dans le camp du roi d'Assyrie tous les guerriers valeureux, y compris les généraux et les officiers, si bien que le roi retourna dans son pays tout confus. Un jour, il pénétra dans le temple de son Dieu et ses propres fils l'y assassinèrent d'un coup d'épée. » Tout semble assez simple. Il suffit donc de prier et alors tout va bien. En réalité, je ne vous ai pas lu les chapitres des livres des rois, des chroniques et des Ésaïe qui nous parlent du siège de Jérusalem, de ses angoisses, de tout ce que cela a suscité. La famine a été terrible pendant un siège qui a duré près d'un an. Ézéchias a vécu des moments extrêmement difficiles où il a été raillé par ses adversaires et où il a dû résister au découragement de ses troupes. Non, il n'a pas failli, il a tenu bon en faisant confiance en l'Éternel et l'épreuve l'a même rapproché de Dieu puisque dans le début de son règne, il parlait à l'Éternel en lui disant « Dieu de mes pères, Dieu d'Israël ». Suite à l'épreuve, c'est plus comme cela qu'il s'adresse à Dieu, mais il dit « Notre Dieu, mon Dieu ». Il y a autre chose que je voudrais souligner dans la vie d'Ézéchias. Et nous lisons dans le livre de Deux Rois, chapitre 20, verset 20, « Les autres faits et gestes d'Ézéchias, tous ses exploits, ses réalisations, en particulier la construction du réservoir et de l'aqueduc pour amener l'eau dans la ville, tout cela est cité dans le livre des Annales des rois de Juda. » Et dans 2 Chroniques, chapitre 32, verset 30, « Ce fut aussi lui, Ézéchias, qui fit obturer l'issue supérieure des eaux de la source de Guillon, et il les canalisa plus bas vers l'ouest de la cité de David. Ainsi, Ézéchias réussit dans toutes ses entreprises. » On voit que Ézéchias comptait sur Dieu, mais compter sur Dieu, c'est aussi agir. Et Ézéchias a prévu, pour soutenir un siège, il fallait que la ville soit approvisionnée en eau potable. Et il a agi. Il ne s'est pas contenté de prier. Il a fait canaliser les eaux de la vallée pour les amener à Jérusalem par un tunnel que l'on peut encore voir aujourd'hui lorsqu'on visite Jérusalem. Il voulait également que l'ennemi ne bénéficie pas des mêmes avantages. Et nous lisons dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 32, les versets 2 à 4, « Ézéchias, voyant que Sennachérib était venu avec l'intention d'attaquer Jérusalem, tint conseil avec ses ministres et ses officiers pour faire obturer les sources d'eau situées en dehors de la ville. Tous l'aidèrent et beaucoup de gens se rassemblèrent. Ils bouchèrent toutes les sources, y compris celles dont l'eau s'écoulait par un canal souterrain, parce que, pourquoi, disait-il, les rois d'Assyrie trouveraient-ils à leur arrivée de l'eau en abondance ? Ézéchias ne pense pas qu'à alimenter son peuple en eau. Il prie l'Éternel, mais il fait aussi sa part pour rendre les points d'eau inaccessibles à ses ennemis. Et on peut encore constater, dans les alentours de Jérusalem, certaines sources, comme celle qu'on voit à l'image, qui étaient complètement obturées par de la caillasse, par des remblais. Quelle leçon à tirer de ces exemples de la vie d'Ézéchias ? Nous devons nous appliquer à connaître la volonté de Dieu pour nos vies. Nous ne pouvons pas réclamer l'aide de Dieu sans suivre les règles qu'il nous a données. Et on a lu que Ézéchias a d'abord rétabli le culte de l'Éternel et a supprimé toutes les idoles. Jacques, dans son épître, nous incite à avoir une vie conforme à la volonté de Dieu. Et maintenant, écoutez-moi, vous qui dites « Aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires » et nous gagnerons de l'argent. Savez-vous ce que demain vous réserve ? Qu'est-ce que votre vie ? Une brume légère, visible quelques instants et qui se dissipe bien vite. Voilà ce que vous devriez dire. Si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais en réalité, vous mettez votre orgueil et vos projets présomptueux. Tout orgueil de ce genre est mauvais. Or, qui sait faire le bien et ne le fait pas se rend coupable d'un péché. Les règles que Dieu nous donne ne sont pas là pour nous asservir, mais pour nous mettre dans les meilleures conditions pour vivre dans la paix et dans le bonheur. Les chrétiens malheureux sont ceux qui veulent participer à la vie d'Église avec les règles du monde. Nous devons nous confier en Dieu avec foi, non pas comme à une aide parmi d'autres. Ézéchias s'est tout de suite tourné vers l'Éternel quand les ennemis sont arrivés aux portes de Jérusalem. Si nous avons des épreuves, confions nos problèmes à Dieu et confessons notre incapacité à les résoudre par nous-mêmes. Le psaume 37, verset 5 nous dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Et le psaume 37, verset 39-40, « Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. L'Éternel les secourt et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. » Dans Philippiens 4, verset 6, l'apôtre Paul écrit « Ne vous mettez pas en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu, adressez-lui vos prières et vos requêtes, en lui disant aussi votre reconnaissance. » La troisième chose que nous pouvons tirer de cet exemple d'Ézéchias, c'est que nous ne devons pas vivre notre foi seuls, mais en communion avec l'Église, avec les frères et sœurs. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, Ézéchias s'est associé à Ésaïe le prophète pour implorer le secours de l'Éternel. Il s'est aussi concerté avec ses ministres et ses officiers pour prendre les bonnes décisions. C'est ce que la Bible nous incite à faire. Dans le livre de l'Ecclésiaste, il est écrit « Mieux vaut être à deux que tout seul. On tire alors un bon profit de son travail. » Et si l'un tombe, l'autre le relève. Mais malheur à celui qui est seul et qui vient à tomber sans avoir personne pour l'aider à se relever. De même, si deux personnes dorment ensemble, elles se tiennent chaud. Mais comment celui qui est seul se réchauffera-t-il? Un homme seul est facilement maîtrisé par un adversaire. Mais à deux, ils pourront tenir tête à celui-ci. Et une corde à trois brins n'est pas vite rompu. Eh bien oui, le couple, par exemple, la famille, quand la foi est partagée, peuvent être une corde, cette corde à plusieurs brins, mais aussi, bien sûr, les frères et sœurs de l'Église. Ce n'est pas une question de nombre, c'est une question de foi, c'est une question d'unité dans la foi. Matthieu écrit dans son évangile, au chapitre 18, les versets 19 et 20, « De même, je vous le dis en vérité, si deux d'entre vous sur la terre unissent leur voix pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est aux cieux. Que deux ou trois, en effet, soient réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. » C'est ce que nous citions tout à l'heure, au début. Nous devons nourrir notre foi, être abreuvés à la source de sa parole en communion avec l'Église. Ézéchias a prévu d'être alimenté en eau potable pour ne pas manquer au moment où l'ennemi voudrait l'en priver. Nous devons, nous aussi, être approvisionnés, recevoir de Dieu les enseignements de sa parole, d'une part par la lecture de la Bible, mais aussi par la prière, par le partage dans la communion fraternelle, pour que, au temps de l'épreuve, nous ayons les ressources nécessaires pour résister. L'apôtre Paul écrit dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 5, verset 19, « Ainsi, vous vous encouragez mutuellement par le chant de psaumes, d'hymnes et de cantiques inspirés par l'Esprit. Vous louerez le Seigneur de tout votre cœur, par vos chants et par vos psaumes. » Et le psaume 119 est rempli de versets qui nous incitent à aimer et à nous tenir proches de sa parole. Et je vais citer par exemple le verset 4, 5 et 9. « Tu as promulgué tes décrets pour qu'on les respecte avec soin, que j'ai assez de fermeté pour les respecter avec soin. » Et plus loin, au verset 9, « Comment, quand on est jeune, avoir une vie pure ? C'est en se confirmant à ta parole. » Nous devons tout faire pour ne pas faciliter la tâche de l'ennemi et ne pas être soumis à la tentation. C'est le cinquième point que je voudrais voir dans la vie d'Ézéchias. Eh bien oui, Ézéchias a bouché les points d'eau qui auraient pu abreuver les troupes de Sennacherib. Si nous avons des points faibles, ne nous mettons pas en situation d'être tentés. Jésus disait à la foule lors du sermon sur la montagne, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi, je vous dis, si quelqu'un jette sur une femme un regard chargé de désir, il a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Par conséquent, si ton œil droit te fait tomber dans le péché, arrache-le et jette-le loin de toi, car il vaut mieux pour toi perdre un de tes organes que de voir ton corps entier précipité en enfer. » Alors évidemment, il ne faut pas comprendre que Jésus invite la foule à s'automutiler. Plus tard, Jésus expliquera que c'est du cœur de l'homme, c'est-à-dire du plus profond de son être, que vient le péché. C'est dans Matthieu, chapitre 15, versets 19 et 20. « Car c'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées qui mènent au meurtre, à l'adultère, à l'immoralité, au vol, au faux témoignage, au blasphème. Voilà ce qui rend l'homme impur. » C'est sûr que nous avons tous des points faibles, des fragilités, et nous pouvons choisir de les alimenter, ces points faibles, ou alors de leur couper les vivres. Nous pouvons nous mettre en danger par de mauvaises fréquentations, par des situations où nous ne sommes pas à notre place, en privilégiant des choses qui nous détournent des valeurs que Dieu nous offre. Alors l'ennemi aura alors beau jeu de nous tenter, de nous influencer et de nous faire tomber. Ézéchias n'était pas parfait, mais nous pouvons trouver dans ce qu'il a vécu un exemple pour notre propre vie. Plutôt que de nous laisser tenter par les choses de l'existence qui ont une mauvaise influence pour nous, eh bien, conformons-nous plutôt à sa parole, à la lecture de la Bible, à la fréquentation de gens qui partagent nos valeurs, à la communion fraternelle. Et lorsque nous fréquentons le monde, eh bien, tenons ferme dans le domaine où Dieu nous a instruits. Donc, voilà les cinq points. J'ai omis le premier, il a disparu là, mais le premier point que nous avions cité et qui n'apparaît pas, c'est que nous devons nous appliquer à connaître la volonté de Dieu pour nos vies. Et c'est vrai que si nous prenons l'exemple d'Ézéchias, si nous nous conformons à la parole de Dieu, si nous nous éloignons de ce qui peut nous inciter à pécher, si nous savons nous alimenter à la bonne source, alors nous pourrons avoir une vie forte en Dieu. J'aimerais pour terminer vous laisser ce verset du psaume 73. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite, tu me conduiras par ton conseil, tu me recevras dans la gloire. Quel autre au ciel ai-je que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ce verset, il s'articule autour d'une promesse de Dieu pour nous. C'est Dieu qui dit « Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. » Là, c'est une constatation du psalmiste. « Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. » Ça, c'est une affirmation de foi du psalmiste. Et la résultante de tout cela, c'est « Quel autre ai-je au ciel que toi ? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. » Sur cette terre, nous pouvons compter sur Dieu. Mais nous pouvons aussi compter sur ses promesses parce qu'il nous a préparé une place dans l'éternité avec lui. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. En tout cas, soyez tous bénis du Seigneur et que le Seigneur vous accompagne tout au long de cette année, dans les moments formidables, de joie, de bonheur. Et dans les moments d'épreuve, eh ben, sachons nous rapprocher encore plus du Seigneur. Pas seulement dans ces moments-là, mais aussi dans ces moments-là. Que Dieu vous bénisse et qu'il soit avec chacun d'entre vous, chacune de vos familles, et qu'au travers de chacun de vous, il bénisse chacune de vos familles. Voilà.